Chloé Tournier, nous nous étions rencontrés au début de l'automne pour parler du début de saison de la Garance, la scène nationale de Cavaillon. Donc vous êtes la directrice. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui s'est passé à la Garance par rapport à la saison précédente qui avait été quand même assez mi-figue, mi-raisin, assez chaotique?
C'est drôle que vous commenciez par cette question qui va me mettre en joie pour tout l'interview. Parce qu'il se trouve que la semaine dernière, mes équipes ont établi les premières statistiques, hein, qui sont évidemment des outils de pilotage intéressants quand on est à la direction d'un lieu, et qu'on a un taux de remplissage qui est de 89%. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un chiffre dont je me félicite, et notamment, je pense qu'il vient récompenser un travail important que toute l'équipe a mis en place pour accompagner le projet Réenchanter le présent, et donc le projet qui se déclinait dans cette saison 22-23. Donc oui, on est ravis de ce qui s'est passé. Puis au-delà des chiffres, ça a été un cumul de moments très très beaux qu'on a pu vivre ensemble à la Garance sur cette première partie de saison. Des beaux instants partagés.
Cet automne, il y avait une première qui était un peu un coup de poker. C'était ce festival, ce focus autour de la magie. Est-ce que la magie a opéré ?
Oui, la magie a opéré, bien sûr. On a pu constater, par exemple, qu'il y avait des publics qui ont découvert un peu ce qu'est la magie. Alors, pas ce qu'est la magie en tant que telle, ce qu'est la magie nouvelle. Et surtout, quelles sont les différentes disciplines qui peuvent la composer. Et pour ça, il y a notamment une programmation qui est très intéressante qui s'appelle la Magic Night. La Magic Night, c'est un format qui permet de découvrir 3 propositions de magie centrées autour d'un tour ou d'une pratique. Et le public, comme ça, constitué de 3 groupes, va naviguer entre les différents espaces. Comme ça, on peut se dire que derrière la magie nouvelle, il peut y avoir les cartes, la manipulation d'objets, il peut y avoir de la marionnette, il peut y avoir du mentalisme, il peut y avoir de l'illusion, il peut y avoir de l'ombre. Et qu'en fait, derrière cette même interpellation, label, en fait, on retrouve une pluralité très importante d'esthétique et de discipline. Voilà. Et ça a marché parce que le public est venu, revenu, revenu, et puis qu'il a aussi pu profiter de propositions, je dirais, en libre service qui étaient installées dans le hall et dans les espaces d'accueil de la Garance, que ce soit de la magie sous forme d'hologramme, que ce soit des isoloirs numériques qui proposaient des tours de magie numériques, que ce soit des kits à découper de magie. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que ça contribue fortement à faire du lieu Garance un lieu de vie qui est quelque chose qui nous est cher.
Alors, des magiciens, on peut en trouver parfois sous les chapiteaux des cirques. Mm-hmm. Et actuellement, se déroule la BIAC, la Biennale internationale des arts du cirque, qui est un festival régional auquel participe la Garance. 3 spectacles, dont une double soirée. Comment ça s'est passé, le choix des spectacles? Parce que, par exemple, pour Take Care of Yourself et Phasm, j'ai l'impression qu'à travers les activités circassiennes, on a une approche de la danse.
Je n'avais pas pensé ça comme ça. Take Care of Yourself, moi, je l'ai vu ici. Je l'ai vu au Train Bleu, au festival, donc dans le Hof d'Avignon l'année dernière. Et je suis tombée en amour devant le travail de ce... Effectivement, c'est là peut-être qu'on arrive au nœud de ce quoi, parce que c'est très difficile de qualifier le travail de Marc, qui est à la fois circassien, performeur, danseur, acteur. Et effectivement, je pense que la question de la dramaturgie et de la narration, elle est très importante dans les 3 propositions qu'on va trouver. Et elle dépasse de loin la question de la technique et de la virtuosité pure, qui peut être une approche plus traditionnelle dans le milieu du cirque, quoi. Effectivement, les 3 spectacles mettent la narration et la dramaturgie au cœur du propos. Dans Take Care of Yourself et Phasm, on retrouve ça fortement, puis surtout peut-être dans le spectacle Life, qui s'inspire en tout cas du travail du chorégraphe Merce Cunningham.
Il y a également Quarantaine. Là, on retrouve l'univers du cirque et notamment du clown.
Oui, Véronique Toyon, c'est une artiste que la Garance et donc mes prédécesseurs avaient accompagnée à travers son spectacle Morora. D'ailleurs, le spectacle qu'on programme aussi en parallèle de Quarantaine en prison, à la prison du Pontet à Avignon. Et du coup, ça, c'est sa dernière création. Donc, c'est un spectacle que moi, je n'ai pas encore vu. Donc, j'ai pu voir des sorties de résidence, puisqu'elle a eu un temps d'accueil et de travail à la Garance, mais dans lequel on retrouve son clown, son personnage et cette gouaille-là qui caractérise le travail de Véronique. Et donc, je suis très, très contente de l'accueillir. Ça doit être. En tout cas, c'est une des premières propositions qu'elle fait au grand public autour de cette nouvelle création.
Ces spectacles proposés par la BIAC et accueillis par la Garance, tout à l'heure, on a parlé du Festival de la Magie cet automne, et puis même le spectacle de Rebecca Chaillon, que j'ai vu en tout début d'année à la Garance, où il y avait d'ailleurs des moments qui rappelaient le clown, le burlesque, mais par moments on était vraiment dans le théâtre, par moments on était dans la performance. Est-ce que ces spectacles qui sont assez hybrides, ça permet d'ouvrir vers un autre type de spectateur?
Oui, je crois que ça devient de plus en plus compliqué, et d'ailleurs parfois même pour la presse, c'est très difficile des fois de rattacher un spectacle. Les gens disent, ben voilà, moi je suis plutôt critique danse, plutôt critique théâtre, et puis en fait ils se retrouvent avec des objets hybrides. Je pense que ça correspond surtout à l'évolution des pratiques des artistes qui aujourd'hui ne s'interdisent aucun langage au moment de transmettre un message, qui aime s'entourer, qui aime travailler aussi en collectif, avoir avec des regards extérieurs ou même voilà, en co-signature. Globalement, cette pluridisciplinarité, elle est plus le reflet d'une évolution des propositions artistiques que de choix de programmation pure. Maintenant, il est vrai que je pense que ça permet de multiplier les portes d'entrée. Voilà. Je ne sais pas si ça permet une diversité des publics, mais ça permet de multiplier les portes d'entrée et les points d'accroche. Le petit élément qui fait que la personne va dire « Ah, mais ça, ça m'intéresse, quoi ». Et de se dire, bon ben voilà, on est à la fois peut-être dans du théâtre, à la fois dans de la danse, à la fois... Voilà, ça devient plus difficile de qualifier par la discipline, et ça permet aussi de qualifier plutôt par l'ambiance. Et ça, c'est intéressant.
À la Garance, il y a également les nomades. Là, très bientôt, on va revivre l'aventure du Larzac, hein, qui est une épopée à la fois humaine et politique qui a vraiment marqué la France des années 70. Et puis, il y a un peu un enfant de la Garance qui est né à Avignon, c'est Baptiste Amann. Moi, j'avais découvert une partie de nos territoires à la Garance, puis j'avais vu l'intégralité de la fresque à Avignon. Baptiste Amann, il va revenir, mais cette fois-ci, en nomade. Et il va revenir avec, là aussi, un spectacle tout public.
Pour moi, c'est important de dire que quand on fait acte de programmation, on le fait avec la même attention et, si possible, avec les mêmes artistes. Qu'il n'y a pas une programmation pour la salle avec des grands noms, on va dire, et puis une sorte de sous-programmation qui serait une programmation en nomade. Loin de là. Et les nomades, d'ailleurs, n'ont jamais été pensés comme tels. On parlait de Véronique Toyon tout à l'heure. Véronique Toyon, Morora, on l'a tournée en nomade. Et cette nouvelle création, on l'accueille dans le théâtre, hein, dans la salle à Cavaillon. Et pour Baptiste Amann, c'est le processus inverse. Mais finalement, c'est bien ce même mouvement d'aller vers et faire venir avec les mêmes artistes. Quand la forme, bien sûr, c'est la forme qui va s'y prêter ou non. Cette dernière création, Jamais dormir, c'est un spectacle qui a été créé aux Odyssées en Yvelines, un festival jeune public qui fait des commandes à des metteurs ou des metteuses en scène qui sont plutôt des personnes qui habituellement travaillent pour un public adulte et qui vont mettre ce challenge-là d'une forme légère, jeune public. Et Baptiste réussit ça brillamment. J'ai été absolument passionné par ce spectacle. Je pense que c'est parce qu'il a l'habitude de côtoyer des personnes de la classe d'âge qu'il vise et qu'il cible dans ce spectacle, mais il a tout un vocabulaire et tout un système de référence. En fait, il écrit un langage, il utilise un langage, il ne colle pas un langage adulte dans la bouche d'un personnage qui serait jeune, il utilise le langage des 8-12 ans, notamment le système de référence autour de jeux vidéo Fortnite, autour des skins, autour des clashs, tout un système de référence et de relations de cette société-là des 8-12 ans qu'on peut voir au plateau. Et c'est vraiment jouissif pour quelqu'un qui aime la langue et qui aime découvrir les nouvelles expressions et les nouvelles manières d'illustrer, les nouvelles métaphores possibles. C'est jouissif de découvrir ce texte.
C'est ce qu'on retrouvait aussi avec le spectacle de Rebecca Chaillon, où je vais noter que dans le public, il y avait des jeunes spectateurs qui réagissaient, alors que même moi, j'étais sur une autre planète par moment. Alors, vous parliez de langage. Alors, Racine, Dieu sait que c'est de la belle langue, mais Phèdre, elle est absolument inoxydable, cette Phèdre. Hein,
c'est un spectacle merveilleux, le travail de François Grémaud, et d'ailleurs... Sur la saison prochaine, donc celle qui arrive, 23-24, on accueillera sa prochaine création qui s'appelle Carmen. Parce que François Grémaud s'est donné comme objectif de relire, réinventer, réinterpréter les grandes figures du champ artistique féminine. Hein, donc Phèdre, Gisèle, Carmen, voilà. À chaque fois, une figure plutôt du théâtre, une figure plutôt du ballet, et puis donc une figure de l'opéra avec Carmen. Et il le fait avec un humour qui caractérise l'ensemble de son œuvre, qui, moi, me semble hilarant, et surtout sur un spectacle que moi, j'ai déjà vu 3 fois, et sur lequel, à chaque fois, je découvre des nouvelles choses, des nouveaux jeux de mots. Et en fait, c'est un spectacle dont on ne se lasse pas, ce spectacle-là, parce qu'on a à la fois, effectivement, la langue et l'écriture de François Grémaud, et on a à la fois l'interprétation hilarante de l'acteur romain, et puis on a aussi, bien sûr, le texte de Phèdre, c'est-à-dire que c'est à la fois une réinterprétation, mais enfin, on trouve bien quand même le texte, et même, je dirais, le texte enrichi, puisqu'on a le texte et le commentaire de texte en même temps, quoi. Le texte et les didascalies, quoi. Le texte et puis Phèdre, je vous rappelle que c'est la fille d'eux et que tata. Et à travers ça, on a un cours sur la mythologie grecque, quoi. C'est une œuvre incroyable que cette œuvre-là, qui a déjà tourné à Avignon plusieurs fois, mais qui fait ça le comble systématiquement, en fait. Et que nous, on va faire donc tourner dans les villages.
Oui, c'est assez facile à tourner, parce qu'en fait, vous prenez un acteur, un texte et puis une table, et ça marche. Voilà. Puis c'est aussi une manière d'ouvrir vers le répertoire classique